matinée. L'invité.
Cette semaine, focus sur l'Algérie et sur la situation des chrétiens dans ce pays du Maghreb. Entre persécution et soutien des musulmans, la vie sur place n'est pas toujours simple. Pour en parler cette semaine, Mustapha Krim, pasteur d'une église protestante en Algérie, ex-président de l'église protestante d'Algérie, et Salem Boussada, chrétien algérien vivant en France. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Expliquez-nous déjà un petit peu, est-ce qu'on peut dresser peut-être un petit panorama, le christianisme en Algérie, donc on va parler spécifiquement cette semaine de l'Algérie, où ça en est ?
Ça évolue doucement, mais sûrement. Je pense que c'est une minorité qui se développe en Algérie. Les protestants sont, selon les chiffres, pour les modestes c'est 30 000, d'autres 100 000 et même 150 000. Mais on reste quand même une minorité par rapport aux 40 millions d'habitants. Voilà, donc ça se développe. C'est des petites communautés dans les grandes villes comme dans les moins grandes. Beaucoup de communautés en Kabylie, dans les villages. Il y a une ouverture peut-être plus grande. Les gens ont cette sensibilité au christianisme. Mais un peu partout dans le pays, on trouve des gens qui ont fait le choix de devenir chrétiens.
Et comment ça se passe d'être chrétien dans un pays musulman ?
C'est vrai que dans les esprits, automatiquement, lorsque nous sommes algériens, nous sommes musulmans. Mais on évolue et maintenant donc chaque être humain a le droit d'être algérien, chrétien ou d'une autre nationalité et de la religion de son choix, de la croyance de son choix. Et c'est ce que nous revendiquons aussi, la liberté de conscience, la liberté de croyance. Et nous avons fait passer le message aux autorités qui nous ont entendus.
Aujourd'hui, la cohabitation se passe bien entre chrétiens et musulmans en Algérie ?
Ça dépend des situations. À partir du moment où on se dit chrétien comme ça dans un groupe qui est totalement musulman, on regarde peut-être un petit peu de travers ou alors on se pose des questions sur nous-mêmes, quoi. Mais en réalité, rapidement, quand on commence à parler et tout, on se rend bien compte qu'on est tous algériens et qu'on partage des points de vue différents, c'est tout. Le christianisme est originaire de Palestine, l'islam est originaire d'Arabie Saoudite. Plus, c'est un libre choix qui est consenti par l'individu, quoi. Bon, je dirais qu'on ne naît pas chrétien ou musulman, mais je dirais plutôt qu'on le devient. C'est-à-dire qu'on peut être élevé dans une atmosphère soit chrétienne, soit musulmane, selon les parents qu'on a, mais en réalité, on le devient par un choix personnel, quoi. C'est une option qui se pose à un moment donné. Chaque être humain, à un moment de sa vie, réfléchit sur les questions existentielles et se pose les questions clés, quoi. On fouille un petit peu dans les différentes religions qui sont à portée de main. Et puis ensuite, on fait son choix en son âme et conscience, suite à des lectures, après avoir étudié un peu le sujet, posé un tas de questions, s'être soi-même positionné d'une manière ou d'une autre, et voilà quoi.
Le libre choix de devenir chrétien est non seulement fait par la lecture, comme dit Mustapha, mais aussi par une remise en question de soi-même face au message de la Bible. Lorsqu'on lit les évangiles, c'est comme si on se regardait dans une glace. Et là, automatiquement, il y a un choix à faire. Soit on rejette cet évangile, soit on l'accepte. Alors ça ne se fait peut-être pas toujours du jour au lendemain, mais c'est une invitation à réfléchir. Il n'est pas interdit de lire toutes sortes de livres religieux. Mais à un moment donné, l'être humain est invité à se positionner face aux grandes questions de la vie. Et ça a été mon cas, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible. C'est pas le fait de lire les livres qui font changer, mais c'est la remise en question de moi-même face à un Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ et qui parle aussi au fond du cœur. On n'entend pas une voix qui vient du ciel, mais au fond du cœur, l'homme se remet en question face à la maladie, face à la mort. Et là, donc, on a le choix soit de refuser, soit d'accepter le message de Dieu.
Alors Salem, vous avez grandi essentiellement en France. Vous dites que vous avez lu le Coran et la Bible. Vous étiez dans une famille d'arrière-plan musulmane ?
Oui, alors j'ai lu le Coran en version, bien sûr, traduite française, puisque je lis très très mal l'arabe. J'arrive à le déchiffrer, mais je ne le lis pas. C'est une curiosité. J'avais envie de lire pour voir qu'est-ce que ça dit. Et aussi les évangiles. D'ailleurs, le Coran lui-même dit de lire les évangiles. Il invite les musulmans à lire les évangiles. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après, bien sûr, face à moi-même, j'ai fait le choix de devenir chrétien.
Comment ça a été perçu au sein de vos proches, au sein de votre famille ?
Pas bien au premier abord, mais après il y a aussi le témoignage vécu, bien sûr, et la famille tolère ou ne tolère pas, tout dépend des familles. Il y a eu des chrétiens qui ont été rejetés ou maltraités, bien sûr. Me concernant à moi, ça a été accepté, mais à la longue, en prouvant aussi, parce qu'il y a un témoignage vécu, ce n'est pas seulement d'accepter le message de l'Évangile, mais c'est aussi un changement de vie, un changement de comportement qui témoigne aussi de ce message.
Comment est-ce que vous percevez les différences de pratique de la foi, peut-être, entre être chrétien en France et être chrétien en Algérie ?
Bon, pour ma part, moi je vis en Algérie. Là-bas, c'est peut-être un peu différent. Ici, je pense qu'en ayant vécu aussi en France, il me semble qu'en France, souvent on se pose la question, quand on se présente comme étant chrétien, mais pourquoi est-ce que tu as choisi cette religion chrétienne ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté musulman ? Et évidemment, c'est une question, je dirais, légitime. Et puis quand on commence à parler du sujet d'une manière plus profonde, qu'on se rend vite compte que c'est une question de mentalité, finalement. Le vécu, c'est pas simplement quelque chose comme un rite qu'on accepte et puis après on s'en tient là, non. C'est une vie nouvelle, une révolution qui se fait dans notre tête parce que Jésus est quand même l'être le plus extraordinaire que la terre ait jamais porté, on peut le dire avec beaucoup de sincérité. Quand on commence à connaître Jésus, ça implique un changement aussi de mentalité pour nous et une imitation finalement de ce qu'il enseigne, ce qu'il dit, et il faut s'y conformer, quoi. Et il y a aussi une dimension sentimentale, je dirais, où on aime ou on n'aime pas. L'amour, on pense souvent que c'est quelque chose d'émotionnel, etc. Non, c'est aussi un commandement. On doit aimer Dieu. En plus de ça, je veux dire, c'est un amour désintéressé. C'est-à-dire, on n'aime pas quelqu'un par intérêt, mais c'est quelque chose qui se vit, en quelque sorte, au plus profond de soi-même. Voilà, donc en Algérie, une des différences, c'est qu'on n'a pas besoin de convaincre les gens, parce que les gens savent à quoi s'en tenir au niveau de l'islam. Donc, on n'en parle pas d'une manière comparative, mais plutôt objective, quoi. Et ce qui se passe souvent, c'est que les gens, mais pourquoi vous faites pas le ramadan ? Ils posent des questions clés, finalement. Quand on commence à donner des réponses, ah tiens, mais ça, c'est pas comme dans l'islam. Pourquoi vous pensez comme ça et pourquoi pas comme ça ? Et on se rend compte que le message chrétien par rapport au message musulman, il n'y a pas photo, hein. C'est une dimension supérieure. Hein. Pas supérieure comme pour se mettre en valeur. Moi, je suis convaincu par les réponses du christianisme. Hein. Et l'islam, moi j'ai beaucoup discuté, même avec des théologiens musulmans, sur les questions existentielles et tout, c'est l'awalum, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui sait. On ne peut pas rentrer dans la connaissance de Dieu. Donc il y a beaucoup de questions, on nous dit non, il ne faut pas poser ces questions. Alors qu'en réalité, en tant que chrétien, on se pose toutes les questions qu'on veut. Et on obtient des réponses d'ailleurs assez simples. On n'a pas toute la science de tous les mystères, mais ce que Dieu révèle dans sa parole, en tout cas, c'est connu et c'est compris. Ce qu'on peut comprendre, en général, on peut l'apprendre aussi. Comment croire à des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on n'imagine pas, ou comme on dit, il faut parfois se mettre au ras des pâquerettes pour poser des questions sincères et trouver des réponses à nos questions, à notre existence. Par exemple, Darwin, beaucoup de gens le critiquent en disant « mais c'est quelqu'un qui dit qu'on descend du singe ». Moi, je pense au contraire que Darwin s'est posé beaucoup de questions. C'est un observateur remarquable au niveau de la nature, au niveau des choses de la vie. Bon, il n'a pas trouvé vraiment les réponses, bien sûr. À cette époque-là, il n'y avait pas encore la génétique et tout ça pour voir que finalement, un homme, c'est un gène humain et il n'y en a pas de semblable. Mais on voit bien que Dieu a créé chaque chose selon son espèce. Et c'est pas pour rien. Là, on est émerveillé tout à coup. Parce qu'on peut pas prendre, par exemple, un chameau et le croiser avec un éléphant, et puis ça va donner je sais pas quoi. Chaque espèce a sa valeur et sa représentativité. Comme l'homme a été créé, il nous est dit à l'image de Dieu. C'est pas formidable, ça ? On parle de trinité, parfois, donc ça, c'est des termes qui sont parfois rejetés parce que on ne croit pas en trois dieux. On croit en un seul Dieu, unique, manifesté en trois personnes. Donc il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont mal comprises et souvent repoussées en disant « mais comment vous pouvez croire en des choses comme ça ?» Mais je pense que si on prend la peine de s'asseoir devant les problèmes en question, en parler d'une manière très simple, finalement, on se rend compte que Dieu a vraiment révélé à l'homme un tas de choses qui lui permettent de placer sa confiance en lui, de se laisser conduire, de se laisser diriger. Il y a vraiment tout à gagner, quoi.
Oui, moi je compléterais aussi qu'en lisant un petit peu plusieurs choses sur d'autres religions, je me suis aperçu que dans les évangiles, le Christ vous laissait libre et il s'intéresse à vous et à ce que vous pensez. Et on dit qu'il voit au cœur. La croyance en Dieu nous libère. Et la Bible dit de ne pas faire de cette liberté, bien sûr, une occasion de faire n'importe quoi, mais nous responsabilise et nous met en face de notre responsabilité face à Dieu.
On parlait notamment de la possibilité de faire rentrer de la littérature chrétienne en Algérie, de pouvoir évangéliser un petit peu les Algériens. Comment ça se passe aujourd'hui ? L'Algérie est 22e, je crois, au classement de persécution des chrétiens, de portes ouvertes. Comment est-ce que vous le vivez ? Est-ce que c'est une réalité que vous ressentez aujourd'hui ?
Persécution, oui, et ça c'est valable pour tous ceux qui veulent, comme on dit, vivre pieusement en Jésus-Christ. L'Algérie, c'est un pays qui se dit musulman à 99%. C'est aussi un pays qui se dit démocratique. Aujourd'hui, on est en train d'assister à des transformations assez radicales, donc on s'en réjouit. Je pense qu'on gagne au niveau démocratique, on gagne aussi au niveau du pluralisme religieux. Il y a quand même plus d'acceptation aujourd'hui. Si on remonte ne serait-ce que 30 ans en arrière, c'était effectivement très restreint. Mais déjà, dans les persécutions, elles commencent déjà dans les familles. À partir du moment où un membre de la famille se dit être intéressé par le christianisme ou des choses comme ça, tout de suite, attention, c'est haram, c'est interdit. Fais attention, c'est de la propagande, etc., etc. On nous reproche souvent justement cet aspect. On nous dit vous êtes là pour évangéliser, pour influencer, etc. Bon, moi je me souviens avoir répondu à un article dans la presse, là, comme ça, où on nous disait c'est du prosélytisme, etc. Je réfléchis à la question, puis j'ai dit mais quand même, là vous nous accusez gratuitement comme ça. Moi je pense que les plus grands prosélytes qu'on a en Algérie, c'est quand même les musulmans. Vous nous dites oui, vous êtes en train de développer des églises. À l'époque, je me souviens, on avait 35 églises.
Dans toute l'Algérie ?
Toute l'Algérie, une petite minorité. Et eux, ils en avaient 35 000. Alors je dis quand même, c'est pas 35 églises qui vont faire trembler les 35 000 mosquées d'Algérie quand même. Et là, effectivement, ils ont commencé à comprendre que c'était un peu démesuré. Et si on analyse même l'idée d'évangélisation, si on regarde le petit Robert, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve tout simplement essayer d'attirer des adeptes à sa religion ou son association ou sa façon de voir, etc. Ben, moi, j'estime que c'est naturel. L'islam, 5 fois par jour, on nous rabat les oreilles à coups de haut-parleurs, là, dans toutes les mosquées. On nous conditionne aussi, par exemple, le ramadan, pas droit de manger publiquement. Bon, ça encore, on peut respecter, parce que c'est pas utile de provoquer les gens. Mais je veux dire, on peut pas imposer ses idées aux autres. Moi, je respecte les musulmans en tant que musulmans. Je voudrais bien qu'on me respecte aussi en tant que chrétien. Moi, j'ai pas de limite à respecter les gens. À partir du moment où ils viennent pas me marcher sur les pieds, je vais pas leur marcher non plus sur les pieds. Et si chacun fait un effort de son côté, je pense qu'il y a tout à fait la possibilité d'avoir une société pluraliste où chacun joue son rôle et que chacun fasse son choix. Et puis voilà.
C'était la période du Ramadan. Comment est-ce qu'on vit cette période-là en tant que chrétien en Algérie ?
Premier aspect qui saute aux yeux, moi je dirais, c'est une dimension très festive, contrairement à ce qu'on pense. Pendant toute la journée, tout le monde vit au ralenti, on baisse la cadence au niveau du travail, tout ça et tout, on sort un petit peu avant les heures, etc. Mais le soir, c'est la fête. Dès qu'on a mangé, le ventre est plein, on commence à chanter. Les soirées, elles s'étalent des fois jusqu'à 2h du matin. Il y a aussi un comportement dans la rue. Généralement, les femmes, pendant le temps normal, après 7h, 8h du soir, elles ne sortent plus, quoi. Pendant le ramadan, jusqu'à 11h, minuit, elles se baladent dans les rues. Donc on voit bien là que, finalement, bon, le peuple algérien est un peuple joyeux. On aime bien faire la fête, on aime bien être respecté et aussi respecter les autres. Et tout à coup, quand le ramadan finit, hop, ça y est, on retourne à nos moutons il y a un rythme qui se reprend d'une autre manière.
Et en tant que chrétien, du coup, comment vous êtes perçu peut-être même au milieu de tous ces musulmans qui sont... Vous savez que le ramadan, c'est souvent la chose la plus suivie par les musulmans. Comment est-ce que vous êtes perçu ou qui ne suivez pas finalement les rites de tout ce ramadan?
Non, bah, nous, on mange chez soi. On ne mange pas le ramadan, on mange la nourriture. C'est toute une question de tradition, ça. Selon le degré de tradition qu'il y a dans telle ou telle famille, on est plus radical que d'autres ou pas. Il y en a qui respectent tout à fait. Il y a des musulmans qui disent « Bon, sens-toi libre de manger, simplement fais-le chez toi et tout. » C'est compris, ça. Mais on voit un petit peu une certaine maturité chez les gens. Quand les gens sont matures, bon, ils respectent tout le monde et ça se passe bien. Et quand c'est des gens qui sont un petit peu extrémistes, donc, et qui sont aussi dans une situation où ils sont pris par la faim, donc ils s'énervent beaucoup plus vite. Il y en a qui sont en manque aussi, par exemple les fumeurs ou ceux qui boivent habituellement ou des choses comme ça. Donc forcément, la maîtrise de soi, elle diminue quoi, dans ces conditions. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Quoi. C'est pas...
En tout cas, ce qui est important, c'est le respect. Moi, je suis contre manger en public pour provoquer les gens. Il ne faut pas le faire. Ce que demandent les chrétiens en Algérie, c'est simplement, comme vous dites, le respect, d'être respecté, d'avoir le droit au culte, d'avoir le droit des locaux, d'avoir le droit d'être chrétien, tout simplement.
C'est compliqué aujourd'hui d'avoir une église, d'avoir ses propres locaux quand on est une église en Algérie ?
C'est compliqué. C'est compliqué parce que les églises actuellement sont harcelées, sont menacées de fermeture, ou sont traînées administrativement avec des lourdeurs pas possibles, des longueurs de délai, de permis de construire, de choses comme ça. C'est pas une persécution franche, physique et...
On utilise souvent des moyens détournés pour aboutir à la fermeture des églises.
C'est ça, on va vous faire poireauter, revenez plus tard. On a votre dossier sous la main, mais on vous répondra dans...
Dans notre région, par exemple, il y a 3 églises qui sont fermées. Ces communautés dérangées, bien sûr, par cette fermeture... On leur met les scellés sur les portes de la communauté. Pour protester, ils ont acheté des espèces de tentes pour pouvoir se réunir sous tente, quoi, et ils ont mis ça juste à côté. C'est une manière de montrer au public que voilà, vous nous fermez nos locaux, donc nous, par protestation, on est en train de défendre nos droits. Il n'y a pas de loi qui interdit de se réunir. Mais par contre, on a une ordonnance qui date de 2006, qui est très négative à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui a été taillé un petit peu sur pièce pour pouvoir contraindre de différentes manières, déranger les chrétiens, quoi. Je crois que c'est quelque chose qui a été élaboré en Égypte au début, puis maintenant ça a été adopté en 2006 en Algérie. Tout chrétien soupçonné de parler à son voisin de sa foi, etc., dans le sens de l'influencer. C'est comme si les Algériens étaient des enfants influençables. En tout cas, on utilise cette loi pour vraiment nuire aux chrétiens qui partagent leur foi tout simplement. Quoi.
Que risque-t-il ce chrétien s'il est soupçonné d'avoir partagé sa foi et d'avoir encouragé son voisin musulman ?
On en a déjà mis en prison. On a taxé certains avec de grosses amendes, plusieurs milliers de dinars. On a beau se défendre devant les tribunaux. Même les juges se déclarent incompétents parce que c'est quelque chose qui manque de corpulence, qu'on ne peut pas vraiment juger. Il y a beaucoup de problèmes aussi avec les couples mixtes. Par exemple, un chrétien avec une musulmane ou une musulmane avec un chrétien. Donc dans la famille, après, ça finit par faire des problèmes parce que les voisins ou la famille s'en mêlent, etc. Tous les procès, en général, finissent avec le gain de cause pour la partie musulmane. Quoi.
Techniquement, c'est possible aujourd'hui en Algérie de se marier avec un chrétien ou avec une chrétienne quand on est musulman ?
Ça dépend du sexe déjà. Pour les hommes, par exemple, ils ont tous les avantages. Ils peuvent épouser des chrétiennes sans problème. Mais une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un chrétien. C'est haram.
Je voulais rebondir sur la précision de Mustapha. Moi, je me mets à la place d'un juge algérien lorsqu'on présente un cas d'un chrétien pour le juger sur sa foi. Il doit être embêté parce qu'il connaît le droit international. Et ce juge se dit, mais le droit international dit qu'on peut être de la croyance que l'on veut. Et la liberté de conscience et la liberté de croyance,
c'est
dans les droits de l'homme. Oui. Donc le juge ne peut pas se prononcer parce qu'il y a ce droit international qui est au-dessus de lui. Oui. Et au niveau...
Au-dessus de la loi algérienne aussi.
Oui, voilà. Et donc il va se déclarer forcément incompétent. Puisque s'il condamne une personne pour la croyance qu'elle a choisie, il va se mettre en porte-à-faux par rapport au droit supérieur, au droit positif.
Officiellement, il n'y a aucune interdiction du christianisme en Algérie.
Absolument.
Officiellement non, mais oui. Dans les faits, on trouve beaucoup de
choses à redire. C'est pour ça que même les embêtements, le type d'embêtement qu'on va vous faire, ce n'est pas un refus catégorique d'ouvrir une église, mais on va vous dire, bon, bah, écoutez, revenez. C'est des menaces, c'est des intimidations, c'est du temps de perdu et fermement et clairement, on ne peut pas vous interdire d'ouvrir une église.
Il y a d'autres pays, je dirais, par exemple dans les pays arabes ou même les pays tout simplement musulmans, il y a beaucoup de pays où ça se passe plutôt bien avec des minorités beaucoup plus importantes. En Égypte, je crois que c'est 10% de chrétiens à peu près, 15 millions je crois à peu près. D'autres pays, c'est aussi des grosses minorités. L'Indonésie, c'est un peu particulier aussi. Bon, je ne connais pas précisément la situation ailleurs, mais l'Afrique du Nord, le Maroc est très surveillé, je pense. Les autorités ont beaucoup de peine à juguler ça, mais il y a quelques chrétiens quand même. La Tunisie, c'est un peu la même chose. En Algérie, c'est plutôt ouvert. Je dirais qu'on peut proclamer sa foi ouvertement, sans offenser qui que ce soit, quoi, à partir du moment où c'est quelque chose de personnel. Mais le faire publiquement, comme ça, dans les stades ou dans les trucs, ça, on n'en est pas encore là.
Comment est-ce qu'on touche aujourd'hui les musulmans d'Algérie pour leur parler de notre Dieu, de Jésus ?
La première fenêtre ouverte sur le monde, je dirais, c'est les télésatellites, les radios, etc. Tous les médias, donc. Moi, je pense que chacun est connecté au satellite depuis chez lui. Donc je crois qu'il existe quelque chose comme 19 canaux satellites pour la langue arabe, l'internet. Bon, en berbère, on avait une chaîne, actuellement elle est en suspens. Bon, il y a toutes sortes de moyens, il y a des radios aussi qui passent des programmes comme ça, où on explique la Bible en quelque sorte sous toutes ses formes. Sur place, moi je pense que c'est le bouche à oreille tout simplement. Chacun rencontre une fois sur son chemin un chrétien, circonstances, on pose des questions, questions-réponses, etc. C'est naturel, quoi, un développement naturel. Il y en a qui cherchent à montrer que ça se fait de manière expansive, avec beaucoup de moyens, etc. Bon, si on avait ces moyens, on ne serait pas dans une petite radio dans la région de Lyon pour s'exprimer, quoi. Moi, je pense qu'il faut être raisonnable, aussi bien le christianisme que l'islam, que chacun se sente libre vraiment d'exprimer ses opinions, qu'elles soient religieuses ou simplement humaines, oui. Voilà, et puis que chacun fasse son choix en se déterminant lui-même devant Dieu, quoi.
On a parlé d'intimidation, de provocation, etc., de barrières un petit peu mises aux chrétiens en Algérie, mais il faut aussi souligner qu'il y a beaucoup, beaucoup de musulmans qui nous défendent. Si tu te souviens,
oui,
Mustapha,
il
y a eu des manifestations, on avait des musulmans à nos côtés qui étaient pour la liberté de croyance, pour la liberté de religion, et qui l'exprimaient en disant il ne faut pas interdire d'être chrétien en Algérie, même en tant qu'Algérien, parce qu'un Algérien chrétien aime son pays, travaille pour son pays.
Oui, les chrétiens algériens sont souvent exemplaires dans leur conduite, dans leur...
Et c'est le témoignage vécu.
Et même les musulmans, beaucoup, pas nous tolèrent, mais nous acceptent en tant que tels, quoi, voilà. Comme le président lui-même, quand il s'était fait élire la première fois, il disait « Je suis le président de tous les Algériens oui. ». J'ai eu l'occasion de lui rappeler une fois et il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis, mais enfin, bon, voilà.
C'est important d'avoir à l'esprit cet équilibre. La majorité de la population musulmane sont pour la liberté d'expression.
Oui, moi je vois même dans ma propre famille, on est une majorité chrétienne maintenant, mais en réalité, il y en a aussi qui sont musulmans et on les respecte oui. tout à fait, comme ils nous respectent aussi. Ça se passe bien et on a vraiment ces liens familiaux tout à fait naturels, agissant par ailleurs différemment au niveau de nos convictions.
C'est là qu'on voit que si c'est vivable dans une famille,
tout à fait.
C'est vivable au niveau d'un pays.
Oui.
Et ça fait même, je dirais, la richesse du pays.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup à tous les deux. On va finir sur ces mots d'espoir.
Voilà.
Mustapha Krim, on rappelle donc que vous êtes pasteur d'une église protestante en Algérie.
Oui.
Et Salem Boussada, vous êtes donc un chrétien algérien vivant en France aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.